Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous continuons, en compagnie de Stéphane, notre étude sur l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la mort tragique de Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Ian. Oui, c'est une histoire très triste qui nous apprend bien des choses sur la vie chrétienne. Écoutons le passage biblique en question pour commencer.
Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient, « C'est Élie. » D'autres encore, « C'est un prophète, comme il y en avait autrefois. » De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean, il est ressuscité !» En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison, à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère !» Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe. Et pourtant, il aimait l'entendre. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle. Elle dansa. Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère. « Que vais-je lui demander ?»«
La tête de Jean-Baptiste !» lui répondit celle-ci.
Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut consterné, mais à cause de son serment et de ses invités, il ne voulut pas le lui refuser. Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau.
Il s'agit d'une histoire tragique et ignoble. Elle lui montre la corruption qui régnait dans la famille d'Hérode et sa cour. Mais pourquoi donc Marc nous raconte-t-il cette histoire ici? Jésus n'y figure pas. Il semble que cette histoire interrompt le flot du récit concernant son ministère.
Oui, c'est vrai. Alors pourquoi cette parenthèse? D'abord, pour expliquer le verset 16, Hérode s'imagine que Jésus est Jean-Baptiste ressuscité. Alors Marc nous explique comment et pourquoi Jean-Baptiste est mort. En même temps, Marc saisit cette occasion pour prendre Jean-Baptiste comme exemple de ce que suivre Jésus signifie vraiment.
Dans quel sens? Dans le sens du sacrifice?
Oui, exactement. Jean-Baptiste nous montre le prix que nous devons parfois payer en tant que disciples de Jésus. Jean avait fini en prison parce qu'il avait dénoncé l'immoralité d'Hérode et de sa femme. Sa femme, Hérodiade, avait abandonné son précédent mari qui était justement le frère d'Hérode, pour se remarier avec Hérode lui-même. Ses propos lui ont valu la haine d'Hérodiade, et on découvre dans cette histoire comment elle a saisi l'occasion du banquet pour manipuler Hérode et faire tuer Jean-Baptiste.
Donc Jean-Baptiste est un exemple de l'opposition à laquelle nous pouvons être confrontés si nous suivons le Seigneur Jésus.
Oui, exactement. Le monde a rejeté le Seigneur Jésus, et donc il rejettera toujours ceux qui le suivent. Les hommes se sont rebellés contre Dieu, et ils refusent de se soumettre à sa volonté, telle qu'elle est clairement exprimée dans la Bible. En tant que chrétiens, nous devons proclamer fidèlement la parole de Dieu et être prêts à subir la haine et l'opposition des hommes. Tout comme Jean-Baptiste, nous ne devons pas avoir honte de la parole de Dieu, mais la proclamer fidèlement, même si elle doit devenir source d'ennui, même si les gens en arrivent à s'opposer à nous. Plus généralement, Jean-Baptiste illustre le fait qu'un vrai serviteur de Dieu doit s'attendre à être rejeté du monde. Le Seigneur le confirme au chapitre 9, versets 9 à 13. En descendant de la montagne où il vient d'être transfiguré, il demande à ses disciples de ne rien dire de ce qu'ils ont vu jusqu'à sa résurrection. Les disciples n'arrivent pas à comprendre pourquoi Jésus doit mourir, et ils lui demandent si Élie ne devait pas venir avant le Messie. Jésus leur répond qu'Élie est déjà venu et que les hommes l'ont traité comme ils voulaient. Cette expression veut dire qu'il a été persécuté et traité injustement. Il fait clairement référence à l'épisode que nous avons lu aujourd'hui. Jean-Baptiste a été traité comme le Seigneur a été traité. Donc, tous ceux qui suivent Jésus doivent s'attendre à être maltraités ou persécutés d'une manière ou d'une autre.
Oui, je vois. Mais nous n'avons pas parlé d'Hérode. Que pouvons-nous en dire? Il s'agit d'un personnage ambigu.
Oui, c'est vrai. Il est intéressant parce qu'il représente le type de personne que les chrétiens peuvent rencontrer quand ils parlent de l'Évangile. Ce type de personne est frappée par l'Évangile, et pourtant, en même temps, elle ne veut pas y répondre avec foi et repentance. On ressent dans le verset 16 qu'Hérode a mauvaise conscience d'avoir donné l'ordre que Jean soit décapité. On comprend qu'il l'a envoyé en prison sans avoir l'intention de le tuer. Il l'a mis à mort simplement parce qu'il a agi stupidement. Il s'est laissé piéger par sa femme. Il était comme bien des personnes qui entendent la parole de Dieu avec intérêt et qui sont touchées par elle, mais qui refusent de répondre à l'appel de Dieu, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas renoncer à leur péché ni à leur plaisir.
C'est comme Félix dans le livre des Actes.
Oui, exactement. Actes 24-25 raconte que Félix envoya chercher Paul. Il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ, mais comme Paul faisait porter la discussion sur la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir, Félix, saisi de crainte, lui dit « Pour le moment, va-t'en. Quand j'en trouverai le temps, je te rappellerai. » On voit le même phénomène se produire ici. Félix est frappé par la parole de Dieu, sa conscience en est touchée, mais il préfère rejeter le message et l'oublier, parce qu'il ne veut ni changer de vie, ni venir au Seigneur Jésus.
Oui, et c'est triste, mais nous pouvons conclure cette émission avec un encouragement à venir au Seigneur.
Oui, concluons avec cet appel du prophète Ésaïe au chapitre 55. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui. À notre Dieu qui pardonne abondamment.
Stéphane sera de retour lors de notre prochaine émission Espérance aujourd'hui pour la suite de cette série sur l'Évangile de Marc. Et sans tarder davantage, nous passons à notre méditation biblique. Après la lecture du psaume 13, Antoine nous fera part de ses réflexions.
Jusque à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusque à quand seras-tu loin de moi? Jusque à quand aurai-je des soucis et des chagrins au cœur à longueur de journée? Jusque à quand mon ennemi aura-t-il le dessus? Regarde, Éternel mon Dieu, réponds-moi, viens réparer mes forces, sinon je m'endors dans la mort. Sinon mon ennemi dira qu'il a gagné, mes oppresseurs se réjouiront quand ils verront ma chute. Pour moi, j'ai confiance en ta bonté. La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter en ton honneur, ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits.
Jusque à quand? Quatre fois, L'auteur du psaume pose cette question. Elle exprime sa plainte, révèle la profondeur de ses lamentations. Jusque à quand ? Le psalmiste souffre. Il semble ne plus voir la fin de ses épreuves. Il gémit tout en s'interrogeant. Dieu est-il toujours présent ? Cette prière plaintive, jusque à quand, peut être la mienne, la vôtre. Des épreuves sans fin peuvent nous harceler. Les épreuves interminables sapent nos forces. Elles font naître des interrogations spirituelles. Mais que faire alors ? Vers la fin du psaume, la confiance et la joie du psalmiste reprennent le dessus. Mais comment cela a-t-il pu se produire ? Dieu désire nous conduire sur ce même chemin qui nous tire du désespoir pour faire germer en nous la confiance et la joie. Mais comment trouver ce chemin quand nous nous sentons perdus et abattus ? Comment y marcher quand nous avons perdu toutes nos forces ? Le psalmiste dirige nos regards vers la bonté et les bienfaits de Dieu. Même si le ciel demeure sombre et voilé, le soleil caché derrière les nuages n'a jamais cessé de briller. De même, sous prétexte que nous vivons dans un monde méchant et malheureux, nous ne devons pas conclure que Dieu est dépourvu de toute bonté ou qu'il n'exerce plus ses compassions envers nous. Dieu est bon, sa bonté est constante, sans limite et éternelle. À cause de nos épreuves et des personnes méchantes qui s'acharnent contre nous, nous pouvons beaucoup perdre dans la vie, mais si nous appartenons à Dieu, s'il a fait sa demeure dans notre cœur, alors nous goûterons à la bonté de Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Citons quelques paroles de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ ? La détresse ou l'angoisse ? La persécution ? La faim ? La misère ? Le danger ou l'épée ? Dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, le rappel de la bonté et de l'amour de Dieu nous redonne des forces et renouvelle notre espérance en attendant ce jour où le Seigneur reviendra pour mettre un terme à toutes nos épreuves.
Merci Antoine pour ces remarques enrichissantes. Antoine sera de retour la prochaine fois pour nous faire part de ses réflexions sur un autre psaume. En attendant de vous retrouver, chers amis auditeurs, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.